La Fueno 5. Devenir votre révélation. Le 28 mai 2017. Brian Kozurek, pasteur. Hébreux 11. Or la foi, c'est la substance des choses qu'on espère. Et le dictionnaire Webster nous dit que le mot substance signifie la réalité ultime qui sous-tend toute manifestation extérieure. Ainsi, nous voyons que la foi, qui est une révélation, est la réalité ultime qui sous-tend toute manifestation extérieure des choses qu'on espère. La démonstration, la preuve visible, de celle qu'on n'y voit pas. Deux, c'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. Trois, c'est par la foi, par la révélation, que nous comprenons que le monde a été formé par la parole, le logo, qui est la doctrine de Dieu. De sorte que ce qu'on voit n'est mis provient pas de ce qui est visible. Maintenant, rappelez-vous que quand nous avons commencé cette série sur la foi, nous vous avons montré que quand Paul dit maintenant la foi est la substance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on n'y voit pas. Nous avons étudié ce mot substance et avons découvert qu'il a été traduit du mot grec hypostasis et nous avons découvert que Paul aussi a utilisé ce même mot hypostasis traduit comme le mot personne dans Hébreux 1, 3 où il nous dit que Jésus-Christ est à l'image exacte de l'hypostasis de Dieu, la personne de Dieu. Par conséquent, nous avons constaté que nous lisons maintenant Hébreux 11, 1 comme maintenant la foi est la personne des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on y voit. Et quand nous lisons dans le dictionnaire Webster que le mot substance est défini comme la réalité ultime, qui sous-tend toute manifestation extérieure, nos cœurs devraient laisser échapper un grand amen. Par conséquent, je veux que vous remarquiez que la foi est la réalité ultime, qui sous-tend toute manifestation extérieure, elle est la preuve visible des choses qu'on n'y voit pas encore. Ainsi ce que nous voyons, c'est que la foi, qui est la révélation, est surtout la réalité ultime. Par conséquent, pour l'épouse de Christ, sa foi est sa réalité ultime. Et puisque la foi est la réalité ultime des choses qu'on espère, et la preuve de celles qu'on n'y voit pas encore, alors si nous les voyons, cela n'exige plus la foi. Car si la foi est la substance ou la réalité ultime des choses qu'on espère, et comme Paul a dit dans Romains 8, 24-25, car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance, ce qu'on voit. Peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous n'y voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. En d'autres termes, quand nous voyons par révélation la chose qu'on espère, cette révélation, pour nous, est la réalité ultime que la chose qu'on espère existe. Alors la révélation est plus une réalité que la vie que nous vivons maintenant dans cette chair. Laissez-moi expliquer. Cette vie vieillit de plus en plus chaque jour qu'elle vit, et j'ai hâte de sortir de ce corps bien que ce soit une chose réelle, du moins dans ces trois dimensions dans lesquelles nous vivons. Mais la vie de Christ, qui croit à l'intérieur devient, pour moi, de plus en plus réelle que cette chair que je supporte au quotidien. Et comme Paul dit, notre révélation est la substance, elle est, pour nous, la réalité ultime si vraiment la vie de Christ se manifeste dans notre homme intérieur. Parce que si elle est la substance dont le dictionnaire Webster nous dit qu'elle est la réalité ultime, alors comme nous attendons patiemment la chose qu'on espère, nous serons en position d'aller en fait au-delà de la foi, quand on en vient à la révélation de l'apparition de Christ, et à l'ordre de sa venue, l'enlèvement des saints, l'union avec lui et tous ces événements qui concernent sa révélation au temps de la fin, et le retour à la maison des élus, parce que quand nous pouvons voir que ces choses se sont déjà accomplies, ou qu'elles sont en cours d'accomplissement, et que nous sommes non seulement en mesure de les voir s'accomplir, mais nous sommes aussi en mesure d'identifier ce qui s'accomplit, et de les ramener à la promesse. Ceci nous amène alors à la position où nous n'aimons les recherchons plus, mais sommes dans le processus de les recevoir alors qu'elles s'accomplissent, vous rendant ainsi, vous cette portion de la parole, et faisant de vous une partie intégrale de la manifestation de Christ au temps de la fin. Or, faire partie de cette révélation manifestée au temps de la fin de Jésus-Christ n'émis fait pas de vous lui, mais cela fait de l'union avec lui la réalité ultime, parce qu'en entrant dans cette révélation, ou dirions-nous, quand cette révélation devient votre substance, elle devient votre réalité ultime. La révélation que vous attendez est plus une réalité que la dimension dans laquelle vous vivez présentement. Quand nous devenons une partie de cette révélation de Christ au temps de la fin, en cela, nous, en tant que son épouse, sommes ceux à qui il se révèle. Cela nous amène à prendre conscience de son grand dessein qu'il a formé en lui-même, en Christ. Maintenant, il y a trois choses qui doivent se produire, afin que Dieu se manifeste ou manifeste sa parole, vu qu'il est la parole. Numéro 1, il doit y avoir celui qui se révèle. Numéro 2, il doit y avoir celui en qui il se révèle. Numéro 3, il doit y avoir ceux à qui il se révèle. Et ainsi, nous voyons qu'il faut ces trois faces pour constituer la révélation de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi des hommes ont si lamentablement mis la pagaille lors du ministère Alpha de Christ. Et c'est pourquoi tant de gens mettent la pagaille aujourd'hui. Parce que pour eux, c'est une chose mentale. Pour eux c'est une affaire d'intellect. Connaître le concernant, plutôt que de le connaître lui. Mais frère Branham a décomposé le triple mystère de Dieu, de la manière suivante. Christ Esther le mystère de Dieu révélé 63-072-846. Quand je vois le grand dessein de Dieu. Se révéler et avoir, premièrement se révéler en Christ, la plénitude de la divinité corporellement. Et ensuite amener cette plénitude de la divinité corporellement dans un peuple, afin d'avoir la prééminence, la surveillance, les directions. En d'autres termes, quand frère Branham dit, ensuite ou deuxièmement amener cette plénitude de la divinité corporellement dans un peuple, afin d'avoir la prééminence, la surveillance, les directions. Il est en train de dire que Dieu s'est exprimé alors qu'il vivait dans son Fils, en utilisant son corps pour se déclarer au monde. Ensuite ou deuxièmement, Dieu veut utiliser le corps de ses autres enfants pour faire la même chose. Pour s'exprimer, exprimer sa vie Dieu au monde. Remarquez, il dit aux pages 153 alors, c'est là qu'il pourra exprimer cette prééminence. Vous voyez, ce n'est pas assez de savoir que vous êtes la chose prépondérante dans la pensée des gens, mais Dieu veut exprimer cette prééminence à travers ses enfants. Puis il dit, 153 haut, puisse Dieu avoir des prisonniers comme celui-là. Alors, c'est là qu'il pourra exprimer cette prééminence, vous voyez. Il aura amené cet homme, ou cette personne, à n'aimer connaître rien d'autre que Christ. Vous saisissez ce que je veux dire? L'assemblée dit, Amen. Tirez des accents aigus, très bien. Ça. Sester deuxièmement. 154 premièrement, s'exprimer entièrement. Dieu en Christ. 155 deuxièmement, avoir. Par ce moyen. La prééminence dans son Église. Qui Esther son corps. L'épouse. De sorte qu'en ayant la prééminence il puisse s'exprimer par eux. Ainsi vous voyez que le dessein d'avoir la prééminence en eux. C'est de s'exprimer à travers eux. Continuons, 156 et troisièmement, rétablir le royaume dans sa position correcte. Perdu par le péché du premier Adam, comme c'était quand il marchait avec son peuple dans la fraîcheur du soir, parlait avec eux, fraternisait avec eux. 157 Mais voilà que le péché et la mort les avaient séparés de sa présence et de toute l'expression de lui-même. Vous comprenez? Avant la fondation du monde, d'exprimer tous ses attributs, ce qu'il était. Remarquez, non seulement, restaurer la marche avec lui dans la communion en descendant à nouveau sous la forme de la colonne de feu, montrant que sa présence était à nouveau ici comme ce fut avec Adam et Ève, et avec Moïse et avec Paul et avec l'Église primitive, mais il dit vouloir exprimer son expression entière à travers eux. Nous voyons le premier de son triple dessein dans 2 Corinthiens 19 quand Paul a dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et encore dans Colossiens 2, 9 où il a dit car en lui, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et le second dessein était que Dieu fasse de même à travers son Église. Comme frère, Branham le dit dans Pourquoi le Saint-Esprit 59-1217-70 maintenant? Remarquez, voici encore une chose que j'aimerais dire. Tout de suite. Comme, Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé. Comme, maintenant regardez bien. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Comme le Père. Comment est-ce ce que le Père l'avait envoyé? Le Père, qui l'avait envoyé, est-ce descendu du ciel et habitait en lui. Il est-ce allé de l'avant. Il a dit, je fais toujours ce qui est-ce agréable à mon Père. Voyez? Il s'occupait de faire les choses que le Père lui montrait qu'il devait faire. Je n'ai mis fait rien à moi que mon Père me le montre en premier. Le Dieu qu'il avait envoyé était à l'intérieur de lui. Et comme le Père m'a envoyé, de la même façon que le Père m'a envoyé, je vous envoie. Qu'est-ce ce que c'est-ce? Dieu en vous. Continuant, quoi? Les mêmes œuvres? Les mêmes. Jésus a dit, le. Celui qui croit, celui qui m'a à l'intérieur de lui, le Saint-Esprit, celui qui croit, qui a déjà été témoin de ma résurrection, qui sait que je suis en lui. Celui qui est en moi. Si vous demeurez en moi, mes paroles demeurent en vous. Par conséquent, nous voyons la foi de Christ vivant en nous. La même révélation à laquelle Jésus s'est accroché et a exprimé, le Père est en moi. Il fait les œuvres. C'est la même foi de Christ à laquelle nous nous accrochons et que nous exprimons au monde. Ainsi, nous voyons ici, que mêmement il devait y voir Dieu qui se révélait. Cependant, nous constatons que Dieu utilise toujours un vase. Et comme dans l'Alpha, quand il a utilisé le corps de son précieux Fils, puis il a utilisé les corps des croyants de l'Église primitive. De même aussi, en cette dernière heure, Dieu a utilisé le corps d'un autre fils, William Branham, et il souhaite maintenant utiliser les corps de ses fils et filles. Mais je crains que comme il en était dans l'Alpha, comme nous le lisons dans Jean 1, 11, il est revenu chez les siens, et les siens n'ayant mis l'ont pas reçu, ainsi, nous avons aussi vu cela se produire dans l'Oméga. Et ainsi nous voyons l'importance de notre élection et surtout d'être élu par Dieu lui-même, bien avant la fondation du monde, afin de devenir les bénéficiaires de sa gloire. Et donc, nous voyons la grande importance du Saint-Esprit, le grand-père de gloire qui est personnellement descendu parmi nous en cette dernière heure. Et il est ici en vue de nous donner l'esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, que nous voyons dans Éphésiens 1:17. Nous voyons aussi à quel point il est important de recevoir cette révélation, sagesse, et connaissance, car c'est seulement ceux qui les reçoivent, qui peuvent en faire recevoir d'abord le changement dans l'homme intérieur, qu'il faut premièrement avoir avant de recevoir le changement de nos corps, qui rendra possible l'enlèvement ou le fait d'être pris en haut. Puisqu'en recevant cette révélation de Christ en nous, nous recevons en réalité sa substance, qui est la réalité ultime de la vie de Christ en nous. Écoutez, l'apôtre Paul dit dans Romains 12, 1-3 « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. De n'aimez-vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous prouviez que vous puissiez devenir la preuve de ce qui est la volonté parfaite, bonne et agréable de Dieu. 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de n'aimer pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. Ainsi, Dieu ayant donné à chaque homme une mesure spécifique de cette foi, ce que Paul nous dit, c'est essentiellement, que Dieu a donné à chaque homme une certaine portion de sa propre substance, ce qui est à une certaine portion de la réalité ultime ou la preuve dans chaque croyant de cette personnification de la vie Dieu qu'on espère. 2 Corinthiens 4h16 c'est pourquoi nous n'aimons perdons pas courage. Et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. En d'autres termes, bien que nous pouvons regarder dans un miroir physique dans notre chambre à coucher, et voir l'homme extérieur périr jour après jour, cependant nous pouvons regarder dans le miroir de la parole de Dieu, dans ses promesses, et voir se former en nous la même vie Dieu qui s'était formée en Christ Jésus, et nous pouvons ainsi voir Christ en nous comme notre réalité ultime. Dans Colossiens 3, 1 nous lisons, « Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. 2 Pensez à ce qui est en haut, et non à ce qui est sur la terre. 3 Car vous êtes mort, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. 4 Quand le Christ, votre vie, paraîtra, se manifestera dans son vrai caractère, alors vous paraîtrez aussi, serez aussi manifestés dans votre vrai caractère, avec lui dans la gloire. Avec lui dans la même doxa, les mêmes opinions, les mêmes valeurs et dans les mêmes jugements. Et si nous sommes vraiment entrés dans notre réalité ultime en manifestant la révélation de Christ en nous, alors il s'en suivra pour nous aussi. 5 Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Nous découvrons aussi dans Éphésiens 4:22, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, 23 être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, 24 et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Remarquez, il dit, créé selon Dieu dans etc. Et puis il dresse la liste de quelques attributs de Dieu tels que la justice et la sainteté. Remarquez encore qu'il dit et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. Et ce mot, selon Dieu vient directement de Genèse 1:11 où Moïse nous a dit chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Et Paul dit que notre homme nouveau se reproduira selon Dieu. Et puis il nous dit ce qu'il reproduira selon Dieu. Et il énumère la justice et la sainteté qui sont les deux attributs de Dieu, qui doivent se manifester dans notre homme nouveau. Ainsi vous voyez que Paul utilise le même langage que Moïse ici. En d'autres termes, alors que nous voyons le vieil homme mourir quotidiennement, et notre vieux comportement mourir lentement avec lui, nous voyons aussi un homme nouveau avec une nouvelle nature, et ces nouvelles caractéristiques, qui se manifestent en des nouveaux comportements qui estèrent l'émanation de nos âmes qu'Néhémie désire qu'être comme Christ, et cette nouvelle vie qui croit à l'intérieur de nous, qui estère notre substance, et comme notre substance, Elle doit devenir la réalité ultime de qui nous sommes. Et nous voyons ce processus de renouvellement dans Colossiens 3:10 ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle, dans la connaissance, selon l'image de celui qu'il a créé. Et c'est à notre nouvelle réalité, notre ultime réalité, ça. C'est ce qu'a Dieu en nous produisant le vouloir et le faire. Ainsi, ça se résume à ceci, car l'homme est comme les pensées de son cœur. Et donc la révélation que vous avez dans votre cœur, c'est ce que vous deviendrez. Si vous avez la révélation de Christ, alors vous deviendrez Christ, rempli de la vie Christ, et fin des fins, vous manifesterez Christ, ou la vie de Christ au monde. Christ est le mystère de Dieu révélé 63-072-846. Quand je vois le grand dessein de Dieu, se révéler et avoir, premièrement se révéler en Christ, la plénitude de la divinité corporellement. Et ensuite amener cette plénitude de la divinité corporellement dans un peuple, afin d'avoir la prééminence, la surveillance, la direction. Dans son sermon, monsieur, nous voudrions voir Jésus mardi 12 novembre 63-38. Frère Branham dit, maintenant, selon les Écritures, nous sommes censés être ces épîtres écrites. La Bible dit que nous sommes des épîtres écrites. Et si, ce soir, nous avions faim et soif de voir le Seigneur Jésus-Christ, nous, en tant que des croyants chrétiens, nous devrions tellement refléter sa vie que nous serions ses parfaits représentants. C'est ce que nous devrions être. Chaque chrétien devrait représenter et refléter la vie de Jésus-Christ. Croyez-vous cela? L'Assemblée dit, Amen. -de, et je crois que chaque chrétien devrait refléter la vie de Christ. Il l'a dit dans Saint Jean 14.12. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et nous savons donc que c'est vrai, que nous sommes ses représentants. Et si nous déclarons que Christ vit en nous, et si Christ vit en nous, nous devons alors agir comme Christ a agi. Nous devons refléter sa vie. E39 Qu'en serait-il si je disais ce soir que la vie de chaque? Qu'en serait-il si je disais que Shakespeare était en moi? Ou que vous disiez que Shakespeare vivait en vous? Très bien. Vous écririez les poèmes comme ceux que Shakespeare a écrits, parce que Shakespeare vit en vous. Et qu'en serait-il si vous disiez que Beethoven vivait en vous? Vous seriez le grand compositeur qu'était Beethoven, parce que Beethoven vit en vous. Vous n'êtes plus vous-même, vous êtes alors Beethoven ou Shakespeare. E40 Alors, si Christ vit en vous, vous y êtes. Voyez-vous? Vous vivez la vie de Christ. Voyez-vous? C'est juste ce qu'il en est, s'il vit en vous. Mais vous n'y pouvez pas vivre là-dedans avec lui. Il faut que lui vive en vous. On dirait que c'est il prend votre place, et nous sommes censés le représenter de toutes les manières possibles. E41 Maintenant, nous voyons que la première église l'a représenté comme des épîtres écrites. Sa vie vivait à travers ces gens. Néhémie peut pas comparer notre église aujourd'hui. Aussi dur que cela puisse être de faire une telle déclaration, avec tout l'amour que j'ai pour les gens, cependant on doit être honnête et dire la vérité. Néhémie peut pas dire que nous voyons Christ reflété dans les églises d'aujourd'hui telles que l'ont reflété ces gens-là. E42 Ils reconnaissaient que ces gens avaient été avec Jésus. Nous voyons dans Saint. Non, je crois que c'est dans Actes chapitre 4. Que nous voyons que ces pécheurs, Pierre et Jean, ont guéri l'homme à la porte appelée la Belle, et qu'ils étaient capables de répondre à chaque question que le Sanhédrin leur a posé, ils étaient pourtant des hommes du peuple et, sans instruction, les gens pouvaient percevoir cela. Ils n'avaient aucune instruction, Ils n'avaient reçu aucune formation comme ministres. Ils étaient des pêcheurs. Mais les gens virent qu'ils avaient été avec Jésus. Voyez-vous? Parce qu'ils agissaient comme lui avait agi envers eux. E 43 Vous pouvez vivre très longtemps avec quelqu'un. Et près de lui. Au point d'adopter ses manières. Ils n'estèrent pas bon que nous allions vivre avec le monde. Mais restons avec Jésus jusqu'à ce que nous puissions refléter. Sa vie soit reflétée dans nos vies. E 44 Et s'estèrent ainsi qu'étaient ses disciples. Les gens reconnaissaient qu'ils avaient été avec Jésus, parce qu'ils parlaient comme lui, agissaient comme lui, et guérissaient comme lui, et chaque réponse qu'ils donnaient était comme la sienne. Ils étaient inspirés comme lui, et les gens reconnaissaient qu'ils vivaient en eux. C'est-à-dire ce que nous devrions être tout le temps, en tant que croyants. Ils agissaient comme lui. Car si vous vous associez très longtemps à quelqu'un, par conséquent, si votre révélation est la révélation de Jésus-Christ, alors vous devez devenir ce qui est révélé dans votre cœur. Nous savons que la foi est une révélation, parce que le prophète de Dieu nous l'a enseigné. Alors, lisons ce que Paul nous a aussi enseigné dans Galates 2h20 « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi, la révélation du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Remarquez, Paul dit, « Je vis maintenant parce que j'ai la même foi, la même révélation que le Fils de Dieu, et je vis parce qu'il vit vraiment ma vie en moi et pour moi. » Par conséquent, comme Jésus était un être double, ainsi je suis un être double, car c'est le même Dieu qui a vécu en Jésus, qui vit maintenant en moi. Et c'est ce que Dieu m'a révélé, et ainsi je lui ai donné mon corps pour qu'il y demeure et vive ma vie pour moi. Je suis devenu ma révélation. Christ Esther, le mystère de Dieu révélé 63-07-28 page 154. Premièrement, s'exprimer entièrement. Dieu en Christ. 155. Deuxièmement, avoir, par ce moyen, la prééminence dans son Église, qui Esther son corps, l'épouse. De sorte qu'en ayant la prééminence il puisse s'exprimer par eux. Vous voyez? Votre révélation devient votre sacrifice. Abel offrit à Dieu un agneau mourant et sanglant et Herbal Esther devenu un agneau mourant et sanglant. Et Paul dit dans Romains 12, 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » De Néhémie, vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous prouviez ce qu'est la volonté bonne, acceptable et parfaite de Dieu. Et frère Branham nous dit dans son sermon, laissez échapper la pression 20-22 juin 62 DE 35. Acceptez simplement la pure parole de Dieu. Croyez-la et restez-la jusqu'à ce qu'elle devienne une réalité pour vous. Je vous assure, la nouvelle naissance est en route. C'est exact. Nous pourrons alors laisser échapper la pression, parce que la nouvelle naissance est en route. Pourquoi crier? Parle. 63-07-14 167 F 124. Maintenant, remarquez, la foi voit ce que Dieu désire que vous voyez. Voyez-vous? La foi voit ce que Dieu voit. Mais le raisonnement et les sens voient ce que le monde veut que vous voyez. Remarquez, le raisonnement. Mais, s'estère seulement du bon sens humain. Laissant les raisons à Esther que, ceci n'est-il pas bien aussi? Voyez-vous? S'estère exactement ce qui arrive, lorsque vous utilisez ces sens qui sont contraires à la parole. Voyez-vous? C'est alors ce que le monde désire que vous voyez. Mais la foi n'y regarde pas cela. La foi regarde ce que Dieu a dit. Voyez-vous? Vous renversez les raisonnements. Le sens du raisonnement voit ce que le monde désire que vous voyez. C'est-à-dire de grandes dénominations. Pourquoi crier? Parle. 63-07-14-160-F-117. C'est-à-dire ainsi que nous, chantons ce cantique, je prendrai le chemin. Avec le petit nombre de méprisés appartenant au Seigneur. Voyez-vous? Oh! Là là! Car, voyez-vous, la foi voit ce que Dieu veut qu'il soit fait. 161-F-118. Oh! J'espère que cela entre. La foi n'y regarde pas au temps présent. La foi n'y voit pas ce qui est ici. La foi regarde pour voir ce que Dieu veut, et agit en conséquence. C'est ce que fait la foi. Elle voit ce que Dieu veut et ce que Dieu veut qu'il soit fait, et la foi opère au travers de cela. 119 La foi est une vision à longue portée. Elle n'y baisse pas son viseur. Elle reste sur la cible. Amen. Regarde dîme 28 avril 63 123 et bien, suivez très attentivement cette observation. La foi? Eh bien, Néhémie manquait pas de saisir ceci maintenant. La foi est conçue de façon à voir ce que Dieu veut et ce qu'il désire. Il n'y a pas de connaissance qui puisse y parvenir. La foi seule est ainsi conçue, et elle permet à la race humaine de découvrir la volonté de Dieu. E 124. Et si vous prenez la foi que vous avez qu'elle n'est mise se règle pas sur la parole, alors laissez-la de côté. Vous avez la mauvaise foi. E 125. Mais quand la foi que Dieu vous donne vous met au point avec la parole de Dieu, vous êtes en ligne directe et bien réglée. Oh! Là là! Que Dieu nous aide en cette heure-ci, cette heure glorieuse où nous vivons. La foi est conçue de façon à voir ce que Dieu veut. Comment voyez-vous cela? Par son appareil photo, sa parole, sa promesse. Ceci est la complète révélation de Jésus-Christ. Je me tiens à la porte, et je frappe dîme 8 décembre 57 38 Sester sac Esther notre, foi. Cette porte de l'œil Esther dans le cœur. Ce n'est pas ce que vous voyez avec vos yeux. Ça. Ce n'est pas voir, c'est regarder. Jésus a dit à Nicodème, si un homme naît de nouveau, il n'aimait peut voir le royaume de Dieu. Vous n'aimez le voyez pas avec vos yeux, vous, le voyez avec votre entendement. Vous regardez avec vos yeux, et vous comprenez avec votre cœur. Ainsi, la porte de vos yeux, c'est dans votre cœur, parce que c'est une porte d'entendement. Oh, je comprends que Jésus a dit qu'il ferait cela dans les derniers jours. Je comprends que ces choses sont le signe de Dieu. Alors, comme c'est différent, comme cela devient une réalité pour vous, comme les choses changent, si nos yeux s'ouvrent, il est avec vous tout le temps. Il vous aide. Il se tient à votre porte, tous les jours, mais vous n'aimez le reconnaissez pas. Les résultats de la décision Sam 8 octobre 55-24 nous voyons que souvent les gens se fient à leurs symptômes. Après que l'on a prié pour eux. J'allais chercher le rapport auprès de frère Joseph, voir combien de gens quittaient hier soir avec vraiment. Après toute une semaine d'enseignement évangélique sur comment être guéri, ceux qui s'en sont allés, disant, eh bien, j'ai toujours cela. Voyez? Et vous aurez probablement toujours cela. Voyez? Si vous avez ces pensées-là. La foi n'y regarde pas à cela. La foi regarde à ce que Dieu dit. La foi n'y regarde pas du tout aux symptômes. La foi refuse de regarder aux symptômes. Vous dites, eh bien, frère Branham, s'ils sont là, Néhémie, devrions-nous pas dire qu'ils sont là?
Non.
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 Mais qu'en est-il si votre cœur est rempli d'autres pensées? D'une foi autre que votre foi? Telles que des choses que vous imaginez dans votre pensée? Qu'est-ce ce qui leur arrive? Dans son sermon, la vie éternelle et comment la recevoir 20. 31 décembre 54-50 frère Branham a dit. Vous pouvez dire, voyez-vous cette chose-là? Et vous continuez simplement à dire, oui. Je crois cela. Et vous le croyez tellement que vous pensez réellement voir cela. Alors que vous n'aimez le voyez pas. Voyez? C'est vrai. Mais? Ça c'est de la psychologie. Mais? Vous. Cela a simplement impressionné votre esprit au point que vous l'imaginez simplement. Vous l'imaginez tellement que ça devient une réalité. E51 Imaginez-vous bien une fois que quelqu'un vous hait? Alors qu'il n'est aimé vous hait pas. Mais vous vous imaginez qu'il vous hait. Et vous continuez simplement à penser. Il n'est aimé même pas. Et? La chose suivante. Vous allez commencer à éviter cette personne-là. Alors qu'elle n'est aimée vous a rien fait. Et peu après? Ça devient tellement réel pour vous que vous croyez effectivement que cette personne-là n'est aimée vous aime pas. Et vous pourrez l'engueuler. Ou il vous dit quelque chose. Par exemple. Votre femme ou votre mari ou un voisin. Ou quelque chose comme cela. Alors que la personne est absolument innocente de tout mal acquis. C'est parce que vous l'êtes simplement imaginé comme ça. Au point que c'est devenu une réalité pour vous. Eh bien. Voyez-vous ce que je veux dire? Ainsi tout se résume à ce qu'est votre centre d'intérêt. Si votre centre d'intérêt est Christ. Alors tout ce que vous verrez. C'est Christ. Alors tout ce que vous vivrez et reflèterez, c'est Christ. Mais si votre centre d'intérêt est votre ego, alors ça sera ce que tout le monde verra en vous. Votre ego comme dans égocentrique. Par conséquent, si votre centre d'intérêt n'est pas Christ, alors vous n'aurez ou n'exprimerez jamais la foi de Christ, et donc vous n'aimerez reflèterez jamais la vie de Christ. Mais si Christ est votre seul centre d'intérêt, alors vous serez tellement rempli des pensées de Christ que vous vivrez comme Christ, et vous agirez comme Christ, et vous parlerez comme Christ et vous penserez comme Christ, au point où vous deviendrez tellement comme Christ, que les gens penseront vraiment que vous êtes Christ, comme beaucoup l'ont pensé de William Branham. Ainsi, nous voyons que ce sur quoi on porte notre attention, les choses auxquelles on pense, et ce dont on parle, s'exprimeront dans la manière dont on parle, et elles s'exprimeront dans nos actions, et la manière dont on réagira par rapport aux gens, et simplement dans chaque aspect de notre vie. Mais tellement de gens sont si remplis de leur ego, que toutes leurs pensées sont sur leur moi. S'il en est ainsi de vous, vous n'aimez pouvez même pas plaire à Dieu dans cette condition. De la version de la Bible appelée le message, laissez-moi lire dans Romains 8:5-8 ceux qui pensent qu'ils peuvent le faire par eux-mêmes, finissent par être obsédés à mesurer le muscle de leur propre moralité, mais n'arriveront jamais à l'exercer dans la vraie vie. Ceux qui font confiance à l'action de Dieu en eux découvrent que l'Esprit de Dieu est en eux, ils vivent et respirent Dieu. La hantise de soi en cette matière est sans avenir. L'attention sur Dieu nous conduit en plein air, dans une vie spacieuse et libre. Se concentrer sur soi est l'opposé de se concentrer sur Dieu. N'importe qui est complètement absorbé dans le moi ignore Dieu, finit par penser plus à lui-même qu'à Dieu. Cette personne ignore qui est Dieu et ce qu'il est en train de faire. Et Dieu n'est pas content d'être ignoré. 9-11 Mais si Dieu lui-même s'est installé dans votre vie, vous pouvez à peine penser plus à vous-même qu'à lui. Quiconque, bien sûr, n'a pas accueilli ce Dieu invisible mais clairement présent, l'Esprit de Christ, Néhémie ne saura pas de quoi nous parlons. Mais pour vous qui l'avez accueilli, en qui il demeure bien que vous éprouviez toujours toutes les limitations du péché, vous faites l'expérience de la vie selon les conditions de Dieu. C'est-ce logique? N'est-ce pas? Si le Dieu vivant et présent qui a ressuscité Jésus d'entre les morts entre dans votre vie, il fera en vous la même chose qu'il a faite en Jésus, vous amenant à la vie à lui-même. Quand Dieu veut respirer en vous et qu'il le fasse, aussi sûrement qu'il le fit en Jésus, vous êtes délivré de cette vie de mort. Avec son esprit vivant en vous, votre corps sera aussi vivant que le corps de Christ. 12-14 Ainsi Néhémie, voyez-vous pas que nous Néhémie devons pas un seul centime à cette vieille vie de débrouille? Il n'y a rien pour nous dans ce genre de vie. Rien du tout. La meilleure chose à faire est taire de l'enterrer décemment et continuer avec votre nouvelle vie. L'Esprit de Dieu appelle. Il y a des choses à faire et des endroits où aller. 15-17 Cette vie de résurrection que vous avez reçue de Dieu n'est-ce pas une vie timide qui tend vers la tombe? Elle aspire à l'aventure, saluant Dieu par un caster ce qu'il y a d'autre, papa, d'enfant. L'Esprit de Dieu touche nos esprits et confirme qui nous sommes vraiment. Nous savons qu'il est terre, et nous savons que nous sommes, père et enfant. Frère Branham a dit dans son sermon, le second miracle d'hymne 29 juillet 51 et ce 8. La foi est-elle quelque chose que vous? C'est-elle absolue? Ce n'est-elle pas juste ce que vous imaginez? C'est-elle une réalité? Mais je dis que 80% de gens qui passent à l'extrême Néhémie savent pas ce que c'est-elle la foi. Ils ont une espérance, mais pas la foi. Mais la foi est-elle la substance des choses qu'on espère? La démonstration de celle qu'on a émis, voit pas. Et rappelez-vous, nous avons lu la définition du dictionnaire Webster, que le mot substance signifie la réalité ultime qui sous-tend toute manifestation extérieure. Par conséquent, la foi est-elle la substance? La foi est-elle la réalité ultime qui sous-tend toute manifestation extérieure? L'année de jubile d'hymne 3 octobre 54 et ce 127 lorsque vous êtes complètement convaincu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et que dans votre cœur, maintenant, non pas dans votre imagination, mais dans votre cœur, quelque chose résonne là-dedans et dit, maintenant, je suis sauvé. C'est tout ce dont vous avez besoin, là même, frère. Confessez cela et déclarez-le. Et ensuite observez. Observez votre vie à partir de ce moment-là. Pas plus que le maïs Néhémie peut porter de chardon. Cet homme-là non plus Néhémie pourrait porter de mauvais fruits. Il devra porter de bons fruits. E 128 Jésus a dit, celui qui écoute mes paroles et qui croit en celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et Néhémie viendra pas en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. C'est parce que vous avez cru. Vous n'imaginez pas, mais vous croyez cela. Cela est devenu une pensée dans votre cœur. La chose suivante, c'est que vous avez exprimé cela comme une confession. Celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père et les saints anges. Alors quelque chose s'ancre. C'est la réalité. Par conséquent, nous devons recevoir la révélation dans nos cœurs afin de recevoir le changement de nos corps. Et comme nous l'avons vu dans Colossiens 3:10, et ayant revêtu l'homme intérieur, qui se renouvelle, dans la connaissance, selon l'image de celui qui a créé l'homme intérieur. Et il n'y a qu'un seul qui peut créer, c'est Dieu, le Créateur lui-même. Maintenant, je pense qu'il est intéressant de noter qu'en tout ce que Dieu a pour nous, il y a toujours un jumeau à cette chose. Deutéronome 28 nous dit que pour chaque bénédiction, il y a aussi une malédiction, mais tout dépend de notre approche de la parole de Dieu, Et si nous voulons la recevoir? Car en la recevant, nous recevons les bénédictions, mais en rejetant sa parole, nous recevons la malédiction de Dieu. Et comme la vie est le fruit de la bénédiction, et que la douleur et la mort sont les fruits de la malédiction, alors pourquoi une personne avec toute sa tête voudrait rejeter ce qui bénit? Dans son sermon, l'attitude qui est Dieu, Marc 15 août 50-35, frère Branham a dit, et comme l'inspiration du Saint-Esprit est ici pour vous inspirer, rappelez-vous, Dieu amènera votre corps à obéir à votre confession. Si vous dites que vous êtes un soulard, et que vous vouliez boire, Néhémie vous en faites pas, vous allez bientôt en être un. Si vous dites que vous êtes un pécheur, et que vous vouliez pécher, vous vous retrouverez dedans sans faute. Si vous dites que vous êtes un chrétien et que vous croyez cela tout le temps, Dieu amènera. Votre témoignage vous amènera droit à cette chose. Si vous croyez dans la guérison, et que vous croyez que Dieu vous a guéri, confessez cela. Alors Dieu amènera votre corps à obéir à votre confession, car il est le souverain sacrificateur de votre confession. Il est maintenant assis à la droite du Père, avec son propre sang pour faire l'intercession pour chaque confession basée sur tout ce pourquoi il est mort. Par conséquent, vous devenez l'expression de votre révélation, parce que comme nous l'avons apporté mercredi soir, nous commençons par la confession, la louange, ensuite nos vies reflètent ce que nos paroles disent. Ça c'est honorer ou montrer que nous estimons ce que nous disons, et puis cela nous amène à la gloire, ce qui est la pleine expression de la parole et de la volonté de Dieu. À Pierre 1, c'est afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, voilà votre confession, l'honneur et la gloire, voilà votre vie faisant ce que vous confessez, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Question et réponse 59-1223-107. Alors, la loi du péché et de la mort agit dans votre chair, mais la loi de l'esprit de vie agit dans votre cœur. Donc votre cœur, l'esprit que vous avez dans votre cœur, obligera votre corps à obéir à ce que lui dicte le cœur. C'est Esther tout à fait ça. Dans 2 Pierre 1, 2-4, que la grâce et la paix vous soient multipliées, par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. 3 Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. 4 Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et ainsi nous voyons selon 2 Pierre, que la réalité d'une vie Christ se manifestant en nous est là, disponible à nous, si nous l'acceptons et prenons sa parole dans nos cœurs. Mais la plupart des gens n'ont pas la volonté de mourir à leur moi pour permettre à Dieu de vivre en eux leur vie pour eux. Ils sont davantage satisfaits d'en parler au lieu d'y marcher. Et je pense que la plupart des gens Néhémie font juste pas confiance à Dieu pour qu'ils vivent leur vie pour eux. Ils pensent qu'ils peuvent mieux faire que Dieu. Et c'est très triste mais vrai dans bien des cas. La réalité infaillible du Dieu vivant dit 26 juin 60-191 voici la chose présentée pile devant eux. Pourquoi Néhémie veut-il pas accepter cela? C'est très exactement ce qu'ils ont fait du temps de Jésus. Ils n'aiment, ils veulent pas des réalités. Ils veulent un credo. Ils veulent quelque chose à quoi se fier. Et dire, je suis membre ici. Je suis membre de cette assemblée. Je suis membre. Quoi? Vous devez appartenir au ciel. C'est là que vos affections devraient se porter. Sur les choses d'en haut. Jésus a dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Pas aux choses d'en bas. Celles-ci passeront. Restez avec Dieu. Restez avec des réalités. Dieu est-il un Dieu de réalité? Il l'a toujours été, dans tous les âges. Chaque fois qu'un homme a marché avec Dieu, Dieu est devenu une réalité qui accomplissait des signes, des prodiges et des miracles parmi son peuple. C'est le but de Dieu de le faire. C'est eux que sont les visions Psalm 21 avril 56-64. Un homme qui gèle n'aime il peut pas se réchauffer à un tableau peint. Il lui faut avoir la réalité. Ce dont le monde a besoin aujourd'hui, c'est elle. Ce n'est pas d'un tableau du Saint-Esprit et du feu, mais du véritable Christ ressuscité, par le baptême du Saint-Esprit et du feu une fois de plus. C'est ce dont le monde a besoin aujourd'hui. Une réalité, quelque chose sur lequel ils peuvent se reposer, pas une déclaration de parole, mais une prise de conscience du Christ ressuscité. Amen. Melchizedek, le grand prince et roi d'Im 9 janvier 55 ME 27. La guérison du cornémie sera plus une fiction. Elle deviendra une réalité. Le baptême du Saint-Esprit Néhémie sera plus de l'émotion, quelque chose de fabriqué. Ça deviendra une réalité, la présence du Seigneur Jésus-Christ à l'intérieur pour changer la vie. Ainsi, nous voyons que ces paroles, qu'elles soient vraies ou fausses, elles manifesteront vraiment le vrai ou le faux. Puisqu'après tout, si la parole est une semence, alors elle est porteuse de la vie. Alors elle est soit porteuse de la vie Dieu ou d'une toute autre vie. Et donc après qu'elle soit semée, elle doit commencer à reproduire une vie à l'image de ce qui a été semé. Et c'est exactement ce que nous lisons dans Colossiens 3, 4. Colossiens 3, 4 Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Or, si c'est une révélation pour vous alors elle doit vivre en vous. Sinon ça n'est mis vous Esther pas révélé, car la révélation est une manifestation de la vérité divine. Mais nous voyons qu'il en est aussi parlé dans Jean 3:18-21 celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui n'est mis croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 19 Et ce jugement c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. 20 Car quiconque fait le mal acquiert la lumière, et n'émit vient point à la lumière, de peur que ses œuvres n'émit soient dévoilées. 21 Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Ici vous noterez que nous voyons deux différents types de vie. Un type de vie qui déteste la lumière et un type de vie qui n'est mis peut s'empêcher de venir à la lumière. Et nous constatons que le type de vie qui y viennent parce qu'ils ont leur source en elle, et c'est ce qu'ils manifestent, parce que c'est exactement ce qu'ont fait les autres qui ont leur source en elle. Puisqu'après tout, ce qui se ressemble s'assemble. Et ce n'est pas juste un vieil dicton. C'est une la palissade. 1 Pierre 1, 23 Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Alors, ceux qui sont nés d'une semence incorruptible doivent se rassembler avec des semences semblables, et ceux qui sont nés d'une semence corruptible, en fin de compte, s'assembleront aussi avec des semences corruptibles. Ils ne peuvent pas s'en empêcher, leurs esprits s'appellent mutuellement. L'apôtre Jean dit la même chose dans 1 Jean 2:19-21. 19 Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous nés sont pas des nôtres. 20 Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. 21 Je vous ai écrit, non que vous n'ayez mis, connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge n'est mis vient de la vérité. Remarquez, il a aussi dit, 1 Jean 4, 6 nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'espère pas de Dieu n'est mis nous écoute pas, c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Maintenant, pourquoi ceci serait placé dans les Saintes Écritures si ce n'était pas un principe que nous devons connaître et comprendre? Maintenant, cela ne devrait pas être utilisé pour défier les gens qui partent. Mais d'autre part, nous ne devons pas non plus rejeter le principe que j'en présente ici. La réalité est que si nous avons la même semence comme il est dit dans Genèse 1:11, alors chaque semence se reproduira selon son espèce. Et cela veut dire que si vous récoltez du blé, vous récoltez du blé. Vous ne récoltez pas du blé et toute autre chose ensemble. Quel boulot ce sera de séparer le blé? Jésus a dit lié d'abord livré en gerbe et ensuite amassé le blé dans mon grenier. Maintenant, ce que j'essaie de dire ici, c'est ceci, votre foi se cristallisera en qui vous êtes et votre révélation se matérialisera dans vos actions. Et soit la vie de Christ, par le baptême du Saint-Esprit, devient une réalité en vous. Soit autre chose viendra vous en faire sortir. Et cette chose n'émis sera pas externe, mais elle sera interne. De même que Christ en vous devient l'espérance de la gloire, votre espérance d'avoir et de manifester les opinions de Dieu, les valeurs de Dieu, et les jugements de Dieu, de même, les pensées que vous avez dans votre esprit si elles sont arrosées, se manifesteront en vos actions peu importe ce qu'elles peuvent être. Jean nous a dit dans 1 Jean 2:18-21 que nous n'aimons pouvons pas nous empêcher de manifester ce que nous sommes. Et il nous dit en outre que si nous sommes de Dieu nous recevrons la parole de Dieu, et nous nous rassemblerons ensemble. Nous marcherons dans la lumière comme lui aussi marche dans la lumière. Mais si nous ne sommes pas de Dieu nous devrons, sans nul doute, quitter ceux qui le sont. Et l'apôtre Paul a dit qu'il faut la lumière pour manifester ce que vous êtes vraiment, car tout ce qui est manifesté est à lumière. Éphésiens 5:13 Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est à lumière. Par conséquent, s'il n'y a pas de lumière alors nous n'aimons saurons jamais ce qu'est réellement la semence. Alors nous n'aimons devons pas être si surpris de voir des gens qu'on pourrait connaître depuis beaucoup d'années devenir si rapidement différents. Je connais quelques personnes qui avaient suivi ce qu'ils pensaient être le message pendant de nombreuses années, et puis quand ils ont finalement été exposés à ce qu'est vraiment le message, ils se sont grouillés de rentrer dans le monde. Il Néhémie pouvait pas supporter la fournaise des épreuves que la parole Esther destinée à apporter avec elle, et il devait s'en éloigner. Pourtant ce sont ces fournaises d'épreuves qui sont essentielles pour faire ressortir la beauté contenue dans l'or, et Esther la pression qui Esther destinée à faire ressortir le diamant d'un morceau de charbon noir et lait. Mais personne Néhémie veut vraiment la pression. Mais sans elle nous n'avons aucune chance de devenir ce que les caractéristiques de la semence en nous sont destinées à être. Le puissant chêne a une fois commencé comme une petite noix. Un gland de chêne. Mais quand il a été planté, il a commencé à sortir de sa coquille et un jour alors qu'il faisait sortir sa petite tête de la terre, les vents ont commencé à souffler. Afin de survivre, il a commencé à étendre ses racines, et plus le vent soufflait, plus large ses racines s'étendaient. Et c'est exactement ce qui se produit aussi avec nous dans notre marche. Plus nous sommes défiés dans notre marche et notre croyance dans la vérité, plus nous nous mettons à sonder les Écritures pour des réponses, et plus nous trouvons des réponses, plus Satan défait notre foi, plus les vents du doute soufflent, Et si nous sommes les vrais vignes, nous creuserons encore plus profondément dans la parole pour plus de réponses et ainsi de suite. Mais alors que nous croissons de plus en plus dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, nous croissons aussi de plus en plus dans la grâce et la paix, et nous sommes de plus en plus remplis de sa divine vie. Nous lisons dans 2 Pierre 1, 2 que la grâce et la paix vous sont multipliées, par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Ainsi, nous voyons comment cette manifestation des attributs et des caractéristiques de la parole de Dieu se forme en nous. Comme nous avons lu, dans 1 Pierre 1, 4 lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ainsi nous voyons que la nature même de Dieu, sa divine nature entre en nous par sa parole. Le troisième exondime 30 juin 63 et 207. Vous pouvez démontrer le raisonnement, E208, mais vous n'y pouvez pas démontrer la foi, car si vous pouviez démontrer cela, ce n'y serait plus la foi. Mais la foi n'y connaît que la parole et la promesse, et elle regarde à cette chose-là que vous n'y voyez pas. La foi est-elle une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on n'y voit pas. Vous n'y pouvez pas raisonner. Je n'ai peut pas démontrer comment cela s'accomplira. Je n'ai c'est comment ça va s'accomplir. Je n'ai le sais pas. Mais je le crois. Je sais que c'est ainsi, parce que Dieu l'a dit. Et cela règle la question. E209 Sester, pourquoi je sais que c'est vrai. Je sais que la parole est vrai. Je sais que le message est vrai. Car il est dans la parole. Et je vois le Dieu vivant s'y mouvoir pour la démontrer. Les conférences 5-8 juin 63 e 68. Si vous croyez vraiment cela de tout votre cœur, rien n'arrêtera cela. Croyez cela de toute façon. Tenez-vous-en juste à cela. Ça ira bien. Néhémie. Pas. Mais vous Néhémie pouvez pas juste en donner l'impression. Vous devez vraiment en être certain, que c'est fait. Il y a une grande différence entre l'espérance et la foi. L'espérance espère simplement la chose, la foi, elle, est certaine que c'est fait. Voilà la différence. Prions. C'est Grâce Fellowship Tabernacle, août 2017. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site internet en anglais à briancocourec@yahoo.com.